Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
La technologie,
des jeux vidéo,
des films et séries, l'espace infini,
l'entrepreneuriat.
Tu mixes ça ensemble pis ça donne les technopreneurs.
C'est-tu là qu'on est en onde? Ben oui, c'est là qu'on est en onde. Bienvenue aux Technopreneurs en ce dimanche assez maussade, 10 septembre 2023. Vous êtes sur les ondes du 96.9, votre alternative radiophonique, et c'est votre animateur Jimmy Roy qui vous souhaite la bienvenue à notre 275e émission des Technopreneurs. Et on est de retour en onde, ben oui, parce qu'on a pris la petite pause estivale de cet été pour profiter, pour se ressourcer. Et puis, on a continué à suivre l'actualité technologique. Et puis, justement, ben aujourd'hui, on vous décortique tout ça. On fait un retour en arrière. Ben, un retour des deux derniers mois, donc, où qu'on n'était pas présent en onde. Et cette belle émission-là, ben, des technopreneurs, ben, je fais pas ça seul. Je fais ça avec des collaborateurs. Et je vais vous présenter notre metteur en onde, monsieur Jean-Samuel Corriveau.
Hola, hola, hola. Ça va, les amigos?
Oui, je savais pas. T'as appris l'espagnol cet été ou?
Pas en tout. C'est toujours les mêmes mots d'espagnol que je récite. C'est ça.
C'est ta base d'espagnol qui ressort.
J'en suis bien fier.
C'est bon. Excellent. Ben merci d'être là.
Yes.
À la mise en onde.
Ben oui. J'ai saucé ce matin. C'était mon dérouillage de CJMD.
Ouais, ben c'est ça.
C'était pas une station comme toi.
Ouais, c'est ça.
Puis, non, ça a bien été. On s'est bien éclaté. Une nouvelle équipe aussi. Un nouveau collaborateur. Tom Pousse est là. Et Manon CJMD qui est là.
OK,
donc,
ouais.
Manon de Roseville qui est bien du fun. On a eu bien du plaisir. Ça va être cool. Puis, bien content de vous retrouver aussi, les auditeurs. Puis surtout, ben, les beaux messieurs en avant de moi. Hein, qui ont
ben, écoute, je vais devenir tout rouge. Excellent. Et là, on a notre zélé qui est en train de se flatter en ce moment, monsieur Guillaume Bouchard, notre fan de séries télé et de cinéma. Salut!
Hello, hello!
Comment ça va?
Hey, je suis content d'être de retour.
Ouais, c'est ça, j'étais pour dire, dis-le dans ton ton de voix, mais...
oui, mais non, ça paraît pas, hein? Non, non, mais là, je suis pas le fafard à l'heure non plus. Là.
Non, mais un peu, non.
Dis youpi au moins, là.
Hey, oui, vraiment content d'être de retour en studio, au micro avec vous autres. Puis évidemment, nos chers auditeurs qui... autant les fidèles qui sont là depuis plus longtemps que...
Oui.
Ceux-là qui nous connaissent pas, hein, tu sais, qui vont nous découvrir en même temps. T'sais, on est des tripeux, nous autres, hein, on est des geeks.
Hein? Je pense qu'on peut s'assumer, hein, exactement.
Je pense qu'on le cache des fois un petit peu, là, derrière ouais. une coupe de bière ou, dans le fond, une...
Il y a ça aussi.
Mais oui.
Faut s'assumer, c'est ça.
Et on a encore une grosse saison là, qui commence. Là. Moi,
oui.
Je suis primé, là, je suis prêt. Là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Jimmy?
Ben écoute, on va faire un petit tour de table parce que, ben, justement, on va faire un retour des deux derniers mois d'actualité cet été. Donc, on va jaser un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il y a des réseaux sociaux qui ont changé de nom. Il y a des compagnies qui font des drôles de moves. Fait qu'on vous décortique tout ça. Hein? Les technopreneurs, c'est un peu ça notre but. Vous vraiment vulgariser, vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, qu'est-ce qui se passe avec les GAFA, qu'est-ce qui se passe dans le monde de jeux vidéo aussi, hein, qu'on jase quand même beaucoup. Et justement, aujourd'hui, on va faire une belle tribune à un des meilleurs jeux québécois qui a jamais été lancé, c'est-à-dire Sea of Stars, qui est un jeu vraiment d'un petit studio de Québec, un studio de 25 employés, Sabotage Studio, qui ont sorti un beau petit bijou là à la fin du mois d'août. Et puis, ben moi puis Jean-Samuel, écoute, on a dévoré ça. Fait qu'on fait une petite chronique tantôt. J'ai ma chronique Jimbo Tech, donc je vous fais un petit topo aussi sur l'actualité du monde du jeu vidéo. Et toi, notre zélé, qu'est-ce que t'as pour nous autres aujourd'hui, là?
Ben moi, je vous parle évidemment d'un des films les plus populaires cet été. C'est Oppenheimer. Et je vais en profiter aussi pour, dans le fond, en parler du box-office, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un été aussi riche en sorties cinéma. T'sais, on a eu les années de pandémie où est-ce qu'il n'y a pas grand-chose qui sortait. Mais là, on a été servi cet été. Mm-hmm. Et surtout les spectateurs se sont donné rendez-vous en salle. Donc, c'est un peu ça que je vais parler aujourd'hui.
Ah, ben oui. Ben, tant mieux, c'est le monde du cinéma qu'on vraiment... Parce que c'était shaky un peu. On n'était pas sûr. Hein?
Ben, c'est que je commence par là, mais c'est dès la semaine prochaine, là, je vais y aller dans un autre axe complètement, parce que là, je vous parle justement de le cinéma, là, ça va pas bien présentement, parce que là, c'est en grève depuis très longtemps. Là, on vient d'y aller avec les 4 mois pour les scénaristes, là, puis les acteurs, ça commence à se prolonger aussi. Donc, ça va être mon topo de la semaine prochaine.
Ah, OK. Ben, intéressant. Si vous avez des sujets pour nous, si je n'y vais pas, chers auditeurs, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. Et si vous avez une question tout au long de l'émission, ben, je n'y vais pas, vous pouvez nous envoyer ça par texto au 418-903-5969. Donc, je n'y vais pas. C'est là pour ça. Puis, on fait de la radio pour vous aussi. Fait que si vous voulez vous impliquer, ben, pas, ou sinon, ben, on va avoir ben de la jasette comme d'habitude. Comme je disais, c'est la 275e émission des technos. Fait qu'on va essayer de se rendre à 300 cette année. Bon, en tout cas, l'année prochaine, là, en 2024.
On a 16 émissions d'ici les vacances des fêtes.
C'est
en théorie,
ça. Fait que notre saison complète, ça devrait ressembler à 25 émissions. Fait que voilà le challenge, voilà le défi, chers messieurs. Mm-hmm. Voilà. Et là-dessus, ben, on va commencer l'émission en actualité technologique. Quand tu dis qu'il y a des compagnies qui font pas beaucoup d'argent, Microsoft, hein, une compagnie qui fait pas d'argent du tout, a acheté Activision à coût de 90 milliards de dollars, et c'est pratiquement finalisé cette transaction-là. Je vais venir qu'en rediscuter. Mais pourquoi que je parle de Microsoft tout de suite en partant avec un drôle de sarcasme? Ben, c'est que ça va être la fin de WordPad. Eh oui, ce fameux logiciel de traitement de texte qui est gratuit. Vraiment à partir du logiciel d'exploitation Windows, ça fait 30 ans que c'est gratuit, hein? Depuis vraiment Windows 95 que c'est inclus. Et pourquoi que je dise, là, ça fait 2 fois que je répète gratuit, mais c'est juste qu'ils vont le retirer vraiment de tout ce qui est Windows. Donc, si vous faites une mise à jour bientôt de Windows, puis vous trouvez que la mise à jour est bizarre un peu, c'est qu'on va retirer sûrement WordPad de votre système d'exploitation.
C'est quand même particulier parce que, tu sais, on retire quelque chose qui est là depuis longtemps. Puis, tu sais, c'est l'espèce de mentalité d'aujourd'hui, là. Tu sais, là, tous ceux-là qui sont allés dans les épiceries, là, dans les derniers mois, dans les dernières années, là, on diminue les formats, mais on garde les mêmes prix.
La fameuse réduflation.
Ouais.
Ben oui, je sais. Puis on dirait, est-ce que c'est vraiment ça que Microsoft vise en retirant WordPad? Ben, je pense que même là, tu sais, on parlait souvent de la suite Office, mais ça n'existe plus, hein, la suite Office. Microsoft, je pense qu'il trouvait qu'on disait pas assez Microsoft. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Microsoft 365 maintenant. Là, je fais comme Office, c'est rendu où? Ben, ça n'existe plus.
Ben,
Microsoft 365.
C'est un login, en fait, maintenant. Presque tout est infonumagique, là. Donc, tu peux autant, là, quand tu t'abonnes à la plateforme, ben, tu peux autant l'utiliser directement sur ton furteur Internet que tu peux downloader. Hey, je commence déjà bien.
Bon, c'est pas pire. Ben écoute, c'est une première.
Packline, packline. Au moins, elle était bien fermée, ma tasse, fait que ça n'a rien renversé.
Mais à vrai dire, pour clarifier tout ça, donc, à vrai dire, vous n'allez pas perdre WordPad de votre ordinateur Windows 10. Là, je veux vous rassurer là-dessus. C'est surtout plus pour la suite des choses, donc avec Windows 11 et Windows 12 aussi, qui devraient être lancés, selon des experts, l'année prochaine, malgré que Windows 10 devait être le dernier, Windows 11 devait être le dernier, ben finalement, on se rend compte que Microsoft fait énormément d'argent en vendant des systèmes d'exploitation. Mais vraiment, selon beaucoup de spécialistes, donc le lancement de Windows 12 devrait être en 2024. Et évidemment, ben, WordPad ne sera plus présent. Pour ceux qui se disent, est-ce que le bloc-notes, lui, va rester disponible? Oui, le bloc-notes va rester disponible. D'ailleurs, ça va être vraiment votre seule solution pour écrire du texte.
Merci.
Mais c'est
merci.
Ça, c'est un peu spécial.
C'est juste ça que j'utilise. Moi, je m'en fous là, de grossir, faire une belle mise en page. Je veux un bloc-notes virtuel.
Il n'y avait rien dans WordPad. Mais on dirait que Microsoft, quand même, ça veut dire qu'ils ont fait des études pour arriver à dire, ouais, ben là, si WordPad est là, ça veut dire qu'on ne vendra pas Microsoft 365. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir Word, ben, faut s'abonner, faut s'inscrire, faut payer par mois pour avoir un logiciel de traitement de texte. Mais il y a d'autres solutions aussi, sous le monde de Windows qui est disponible gratuitement. Donc, nous, on conçoit l'émission avec les suites de Google.
Qui sont complètement gratuits.
Et tout ça, c'est gratuit. C'est de la nuage. Ça fonctionne très bien sur cellulaire, sur n'importe quel équipement.
Il existe toujours OpenOffice, de toute façon, qui fonctionne.
OpenOffice, oui, c'est ça. OpenOffice, oui.
Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir toutes les suites de traitement de texte. Donc, tu sais, moi, je trouve ça dommage que Microsoft retire un service qui, finalement, leur procurera probablement pas grand-chose.
Non, je pense pas qu'ils vont aller chercher plus de gens qui vont payer 70$ à l'année pour avoir un logiciel de traitement de texte. Qui est Microsoft 365, maintenant, qui est disponible en plusieurs versions, que ce soit commercial ou juste personnel. Évidemment, la suite personnelle est beaucoup moins dispendieuse. Mais quand je vois des trucs comme ça, je fais comme... Tu sais, c'est pas pour l'intérêt du consommateur
en
du
quelle
tout,
année
là.
On est aussi, là?
Mais en 2023, ton logiciel de 30 ans, là, que tu l'as... Même là, on pouvait le désinstaller, parce qu'initialement, on pouvait pas désinstaller WordPad. Là, on peut le faire depuis quand même quelques années pour les gens qui veulent plus l'avoir... Dans le système d'exploitation, mais on s'entend, là, c'est WordPad, là, ça doit être un logiciel qui paye genre 10 mégaoctets. Là. Voilà. Fait que voilà. Mais on commence fort avec Microsoft. Voilà. Donc, n'oubliez pas hein, aussi que CJMD, ben, c'est pas juste à la radio, hein, c'est une chaîne YouTube. On a plein de balados aussi de disponibles sur notre site web, donc au 969fm.ca. Donc, ben, allez-y, allez voir le contenu. Puis si vraiment vous aimez l'émission Les Technopreneurs, ben, vous pouvez nous écouter, sur Spotify, sur Apple Music. On est un peu partout. Et là-dessus, on change de sujet parce qu'on s'en va jaser de cinéma avec notre zélé de la télé.
Guillaume Bouchard, dans le rôle du zélé de la télé.
Hey, salut les gars, bonjour, bonne heure. En fait, j'écoute pas beaucoup de séries documentaires normalement, mais j'ai découvert sur Netflix.
J'en profite un petit peu trop vu qu'on se filme pas aujourd'hui.
Ouais,
j'ai même pas vu ça aller. Refais-le pour moi.
Je me touche partout.
Bon, mais je vais mettre mon micro, puis moi, c'est à mon tour.
Ouais, c'est ça, c'est un peu spécial. Mais ouais, notre zélé, donc, qui est allé voir du cinéma un peu cet été, mais il y avait un film vraiment que tu m'as discuté à quelques reprises. Puis c'est un chef-d'œuvre, faut vraiment aller voir ça. Puis c'est Oppenheimer.
C'était super bon, Barbie. Ah, c'était pas Barbie?
Ben, il va sûrement nous en jaser de Barbie à un autre moment donné. Là.
Ben non. Mais oui, je vais en fait par la bande, si on pourrait dire. Je suis allé voir Oppenheimer très, très en retard, en fait. C'est que je le remettais tout le temps pour plein de raisons. Puis là, malheureusement pour moi, j'ai perdu la chance de le voir en IMAX parce que c'est un film qui a été tourné. Parce que Nolan, maintenant, tourne presque exclusivement avec des caméras IMAX. Là.
Ouais.
En fait, c'est que dans ces films, ils utilisent d'ailleurs plusieurs formats de pellicule. C'est ça qui est intéressant. Et là, dans ce contexte-ci, ben, il y a même Kodak qui ont fait pour la première fois une pellicule noir et blanc pour l'IMAX parce que ça n'existait pas. Donc, ils ont fait une spécifiquement pour les séquences de Oppenheimer.
Oh, quand même.
Évidemment, Christopher Nolan, tout le monde le connaît. C'est un réalisateur britannique émérite, là. Ceux-là qui viennent juste de naître ou qui n'ont jamais écouté de film avant. Je vous invite fortement à aller voir les Interstellar, les Inception, les Memento, les Prestige. Et voire même, en fait, je
les Batman,
tout,
à la limite. Là.
Les Batman, Tenet, The Following, tout ce qu'il a fait, et tout ce qui touche, en fait, c'est du bonbon pour l'œil. Tu sais, là, il est disponible, dans le fond, son plus récent film, qui est Oppenheimer, évidemment, est disponible en salle depuis le 21 juillet dernier. Et là, on parle d'un film qui n'est pas un film comme, justement, Jess mentionnait, un film comme Barbie, qui a 50 ans d'histoire, mm-hmm. de fans, de développement. Et oui, là, on parle de Oppenheimer, qui est le père de la bombe nucléaire, qui, ouais. On pourrait pas dire vraiment qu'il y a un fan base, là, de Oppenheimer. Je pense pas qu'il y ait des fan clubs de Oppenheimer puis des affaires de même, sauf que...
Surtout pas au Japon.
Donc, on parle quand même, non, en effet. Hein. Donc, on parle en
c'est
effet...
C'est ce qu'on dit.
On fait, non. Donc, on parle de, tu sais, d'une histoire qui est purement nouvelle. Donc, c'est un peu la force de Nolan. C'est qu'à chaque fois, il fait des histoires nouvelles. C'est que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est basé nécessairement sur quelque chose. Oui, on parle des Batman, évidemment. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose de très nouveau. Et il réussit à faire un film à succès immense. Et là, on parle de 860 millions accumulés au box-office jusqu'à maintenant au niveau mondial. C'est pas la première fois que Nolan fait un film à nature historique. On peut se rappeler Dunkirk, là, qui était paru en 2007, qui racontait une séquence de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, il s'attaque à une histoire, à un chapitre de l'histoire américaine qui est autant marqué d'avancement technologique en même temps des tristement célèbres qui sont les bombes larguées, justement, comme tu disais, au Japon, sur Hiroshima et Nagasaki, qui ont en fait mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Je dois avouer là que, comme je vous disais d'emblée, ça m'a vraiment, j'ai vraiment été triste de pas être allé le voir sur écran IMAX parce que ce film-là, comme tu disais, c'est un chef-d'œuvre. J'avais écrit sur Facebook, sur mon Facebook personnel, lorsque je suis allé le voir, j'avais l'impression d'être en train de regarder Léonard de Vinci peindre la fameuse Joconde. Parce que c'est vraiment une œuvre d'art du septième art. Là. T'sais, c'est que on arrive à un réalisateur qui est complètement au sommet et qui maîtrise le cinéma, son langage, sa façon de le présenter. Puis, tu sais, ce qui est capoté, c'est que c'est un film qui a été tourné en 85 jours. En fait, qu'il devait être tourné en 85 jours, qui est déjà un exploit pour un film de 3 heures, là, je parle. Donc, on parle 3 heures d'image en général. Il y a pas mal de choses qu'on tourne en extra puis qui se retrouvent pas nécessairement dans le montage final. Mais le film a été tourné en 55 jours. 30 jours de moins. Pourquoi? Parce que le réalisateur voulait libérer du budget pour l'équipe des décors, parce qu'il voulait s'assurer de reconstituer en détail le village de Los Alamos, où est-ce que, dans le fond, toutes les installations étaient préparées pour faire les premiers tests de la bombe nucléaire. Les acteurs livrent une performance, je dirais, sont tous dignes de statuettes. Là. Quand je parle de statuettes, là, je parle d'Oscar, je parle de Golden Globe. Évidemment, ils ne pourront pas tous la remporter, mais c'est là qu'on voit un autre des talents de Nolan, c'est la direction d'acteur. Tu sais, je sais pas si ceux-là qui connaissent Florence Pugh, qui a joué, entre autres, dans les Marvel, c'est une actrice qui est pas très approche. Ce qui est difficile d'approche au niveau de son visage, un visage relativement stoïque. Mais là-dedans, elle donne une performance incroyable. Évidemment, sans oublier Cillian Murphy dans le rôle-titre de Oppenheimer. C'est vraiment une page d'histoire là, du cinéma qu'on a vu. Puis je vous dis, c'est un film qui va rester pendant longtemps comme un des grands films du cinéma. C'est sûr et certain que Nolan, premièrement, on va en entendre encore parler. Puis il est vraiment un des grands du domaine présentement.
Moi, j'ai vu de quoi d'intéressant là-dessus. Tu dis que c'est un film qui a déjà marqué puis qui va marquer. La plus grosse bobine jamais faite de IMAX à ce jour, c'est ce film-là maintenant. Donc, tu sais, le film n'était pas sorti, qui avait déjà battu un record, entre parenthèses. Donc, c'est
en effet, parce
super
que
intéressant.
Le record précédent était détenu par Avatar. En fait, puis on parle même pas d'Avatar 2, parce qu'Avatar 2 était pas disponible, il a pas été mis disponible en bobine, seulement en numérique, mais Avatar 1, lorsqu'il avait fait, dans le fond, la version allongée au cinéma, il avait dû rajouter des plaquettes, et en effet, Oppenheimer a battu ce record-là, mais ça fait partie de bien des records qu'il a battu dans le contexte, où est-ce que c'est un film qui, tu sais, que... Comme je dis, quand on compare à Barbie, là, tu sais, justement, je vais poursuivre avec le box-office de l'été. Tu sais, on a vraiment eu beaucoup de gros titres qui sont sortis cet été, et Barbie en étant un, qui est sorti en même temps que Oppenheimer. Et Oppenheimer, dans le fond, bizarrement, a commencé avec une plus petite fin de semaine, mais a maintenu ses chiffres. Tandis que Barbie a eu une grosse première fin de semaine, puis là, tranquillement, baisse. Tandis que ça a pris plusieurs semaines avant qu'Oppenheimer ait des chutes relativement importante dans son box-office. Donc, si on prend un peu notre box-office de l'été, il faut toujours prendre en contexte que l'été, ça commence au mois d'avril. grosso modo. Et le premier, dans le fond, a été Super Mario Brothers, qui a fait 146 millions dès son premier week-end. Puis là, on est rendu à 1,36 milliards dans le monde jusqu'à maintenant. Il est encore disponible dans certains cinémas.
Ah ouais.
Pas nécessairement ici, mais dans certains cinémas, il est disponible. 1,36 milliards, c'est très intéressant. Là. C'est du calibre des films de tous les films de Walt Disney. Là.
Ben écoute, moi quand je suis allé au Japon, il était même pas disponible.
Non, mais il est sorti un petit peu plus tard.
Exactement, c'est ça. Puis là, tu fais comme, attends un peu, c'est une franchise japonaise, c'est au Japon, il est pas dispo.
C'est une production américaine.
Mais exactement, c'est ça, voilà. Donc, c'est les créateurs de... c'est Illumination Studio. Hein?
Exactement, ouais. C'est évidemment ceux-là qui ont fait Les Mignons, qui ont fait Les Détestables, ouais. Moi, et ainsi de suite.
C'est un bon film, Super Mario Bros.
Exactement. Il a d'ailleurs régné pas mal en roi et maître tout le mois d'avril. C'est, dans le fond, il a été détrôné par le troisième volet des Gardiens de la Galaxie, qui est sorti au début du mois de mai, qui, de son côté, a amassé 845 millions jusqu'à maintenant. Tu sais, dans les autres films qui ont bien performé, on a Fast X, Spider-Man Across the Spider-Verse, mais il y a eu des grosses déceptions. Flash qui est sorti au mois de juin, Indiana Jones aussi, dans le fond, le dernier qui est sorti. Même les Transformers Rise of the Beast, c'est le moins prolifique de la franchise. Donc, malgré qu'on a eu des gros titres, on a eu des titres qui ont beaucoup moins bien performé. Même The Little Mermaid n'a pas eu une très grande performance par rapport aux autres films de ce genre-là qui sont sortis.
Mm-hmm.
Mission Impossible a bien performé au début, mais a été complètement emporté par la marée Barbie et Oppenheimer.
Ben oui, c'est ça, parce qu'il est sorti une semaine avant. Hein?
Exactement, puis non seulement ça, c'est que l'enjeu étant que... dans le fond, il perdait tous ses écrans IMAX dès la deuxième semaine parce que c'est Oppenheimer à cause que c'est Nolan qui a une entente puisque c'est vraiment tourné avec des caméras IMAX face à, dans le fond, projeté sur un écran IMAX. Mm-hmm. C'est ça la différence, c'est que tu sais les Missions Impossibles, c'est pas tourné avec des caméras IMAX. Tandis que lui, Nolan, ça fait longtemps qu'il tourne avec des caméras IMAX. Il aide au développement de la technologie, donc c'est certain qu'ils vont lui donner une place de choix. C'était d'ailleurs quelque chose qui fâchait un peu Tom Cruise parce qu'il savait très bien qu'il allait perdre beaucoup d'argent puisque de son côté, l'argent, il a fait avec le box-office.
Ben oui, c'est ça.
Et le film a fait à peu près 500... Il est à peu près à 600 millions, un petit peu moins de 600 millions jusqu'à maintenant, ce qui est moins qu'Oppenheimer, qui est un... Puis on parle d'un Mission Impossible, c'est quand même particulier, là.
Ben, c'est quand même beaucoup, 500 millions, quand même.
Oui, mais si on parle, dans le fond, pour un film de l'été de Tom Cruise, si on compare juste, mettons, à Top Gun Maverick l'année d'avant, qui a pété le milliard facilement, c'est un peu ça. Et je vous parle de Barbie, c'est le meilleur film de 2023 qui est à 1,38 milliard mondialement. Donc, quelques 200 millions au-dessus de Mario Brothers. Donc, c'est vraiment une grosse saison de cinéma. Je vais vous reparler un petit peu plus tard là dans la saison des évidemment des émissions des films qui s'en viennent à l'automne, mais 2024 et voire peut-être même 2025 risque d'être des années assez il n'y aura pas beaucoup de sorties là parce que c'est parce que tout est sur pause présentement à cause de justement ce que je vais vous parler la semaine prochaine. Donc
tu avais déjà commencé à en parler, la grève des scénaristes.
Oui, parce que ça fait 4 mois que ça dure.
C'est ça, là,
déjà, puis il y a eu une entente, une semi-entente de principe, mais c'est pas encore terminé, puis les acteurs ont emboîté le pas aussi. Je donne un exemple vite là, pour terminer avec ça. Aaron Paul, qui était un des acteurs de la série Breaking Bad, fait pas un sou de tous les visionnements de Netflix.
Il a touché 0$, c'est ce qui avait sorti, je pense, récemment.
0$ de tout, dans le fond, de tout ce qui est streaming de Netflix, fait pas une scène. Tu sais, je comprends là que y en a qui sont les producteurs puis qui investissent l'argent. Sauf que à quelque part, on est rendu à un stade où est-ce que la richesse doit descendre un petit peu plus.
Mm-hmm.
Être pas mal trop concentré en hauteur. Là. Bob Iger, le président, le PDG de Disney, disait que les demandes des scénaristes, des acteurs étaient pas raisonnables. C'est parce que lui, il gagne 27 000 piastres par jour.
Mais oui. Mais c'est toujours ça, ceux qui en vendent plein, c'est eux qui se plaignent.
27 000 piastres par jour.
Ouais, lui, il fait juste gérer sa business, là.
Exact.
Je pensais que c'était pour dire 27 000 piastres à l'heure, ça m'aurait même pas surpris non plus.
Non, fait mais...
Des chiffres astronomiques, comme ils font avec justement tous leurs films, les séries. ils pourraient repartager un petit peu. Des fois, c'est juste une petite différence là, qui va faire que les autres vont embarquer puis vont recommencer.
Ben, ça fait partie de ce qui se passe. Là, le pire, c'est qu'il y a quand même des choses qui se tournent malgré tout. Mais c'est vraiment, on est presque à l'arrêt complet là, sur plusieurs productions.
Fait qu'on va le ressentir autant en TV show qu'on va le ressentir au cinéma, de fond.
Ben oui, parce que les scénaristes sont beaucoup plus importants, voire dans une série télé que dans un film. Parce qu'en général, quand on va faire un film, le scénario est relativement arrêté. Tu sais, on avant de faire le tournage, tandis qu'au niveau de la télévision, ben il y a souvent beaucoup de répliques qui se donnent, puis souvent on fait des changements dans le fond directement sur le volet. Là. Fait que c'est pour ça que c'est un peu ça. Là, ça fait partie du topo que je vais faire la semaine prochaine des conséquences en fait de tout ça.
Là. Et là pour ceux là, qui ont raté Oppenheimer et qui l'ont vendu d'aller voir Oppenheimer, il est encore disponible au cinéma?
Absolument. Ouais. Ben, presque tous les grands tous les films de l'été sont encore disponibles pour la plupart. Même Super Mario est disponible encore dans les cinéplex.
Ah, OK.
Même si, là, il est sorti disponible gratuitement, là, si vous avez la plateforme Prime Video. Barbie, ça s'en vient aussi, évidemment. Flash, faudrait quasiment que j'aie une autre chronique pour vous en reparler, parce que ce film-là a vraiment mal performé au cinéma. Mais Colin, je l'ai trouvé bon, oui.
Mais ça veut pas dire, c'est pas à cause que le film fait pas d'argent que...
Non, mais il a été vraiment... Les gens, tu sais, les spectateurs ont vraiment été très, très... je dirais presque méchant dans la performance. Puis oui, j'aurais pas choisi cet acteur-là pour faire Flash, mais le reste de l'histoire se tient bien. Puis tu sais, toi qui as un peu cet amour comme moi du voyage dans le temps, ben avec ça, il y en a une partie à cause qu'il utilise le thème du Flashpoint Paradox, encore une fois, qui est la plus belle thématique de Flash. Là. C'est toujours celle-là qui est la plus fun à utiliser. Donc moi, je vous dirais...
Il y avait de la bombe.
Si vous avez Crave, là, prenez un petit 2h15 de votre temps, hein, puis forgez votre propre opinion.
Ouais, c'est ça, ouais. Ah, pas tout le temps se fier sur le box-office, ça c'est sûr, là, parce que c'est pas tout le temps les bons films qui performent bien au box-office.
Non, surtout que je pourrais, là, je m'étire un peu encore, là, mais c'est parce qu'il y a un débat qui est parti présentement avec Rotten Tomatoes, parce qu'il y a une compagnie de publicité qui a avoué d'emblée qu'il payait pour des critiques. Il donnait $50 à des critiques pour qu'ils publient, dans le fond, de façon positive à propos d'un film. Et là, Rotten Tomatoes a eu vent de tout ça. Puis ils ont carrément enlevé toutes les publicités, tous les commentaires de ces personnes-là. Mais c'est pas la première fois que ces rumeurs-là arrivent. Et tu sais, on le sait, on est dans le domaine de la technologie. C'est très faisable et relativement facile d'avoir des clics, d'avoir des opinions, d'avoir des choses comme ça.
Ben
donc,
oui.
C'est sûrement pas les seuls.
Non, sûrement pas.
Et Rotten Tomatoes a un impact très important sur le box-office d'un film.
Ben écoute, moi c'est vraiment un pays. Je pense Barbie, vraiment si le film avait pas été bon, c'est sûr et certain que ça montait pas au box-office. T'sais, c'était comme soit le film est bon, ça va lever en débile, soit le film est vraiment pas bon, puis honnêtement, d'après moi, ça aurait eu de la difficulté à.
Ouais, mais là, on pourrait arguer que les Transformers, c'est-tu bon? Ben non, mais ça fait de l'argent au box-office.
Ouais, mais d'après moi, ils payent du monde pour aller voir ce film-là. Je me demande tout le temps si
qui
va voir ça.
Ça doit le coûter cher en battant, c'est parce que tu sais, là, le dernier a fait à peine 200 quelques millions, là, dans le fond, en Amérique du Nord. Puis, en général, ils font du 450-500 millions. Fait que ça reste que c'est un film qui est vraiment pas performant parce qu'il coûte très cher à faire.
C'est encore Michael Bay qui fait ça?
Oui, je pense que oui.
Ah ouais?
Je sais plus. Là,
moi aussi, j'ai perdu complètement
parce que,
complètement
c'est déjà
la vague
là,
des Transformers.
Ça fait longtemps qu'on a tiré la sauce. Puis déjà là, la sauce, ça goûtait pas tellement bon au début.
Elle était déjà diluée.
C'est ça, parce qu'au moins, la sauce, au début, il y avait une Megan Fox dedans. Là, il l'a pu.
C'est
sûr que ça enlève de la sauce, t'enlèves Megan Fox.
Merci, je pense que c'est comme ça qu'elle va se terminer la chronique du Zélé. Merci beaucoup de ton retour, Zélé de la télé.
Yes,
fun.
Vraiment content d'être de retour.
Ouais, merci beaucoup. Puis si vous avez des sujets pour le Zélé, on gêne pas, on va sur la page Facebook des Technopreneurs. Puis même là, t'avais-tu ta page personnelle aussi?
Oui, mais je vais peut-être commencer à la faire revivre un peu. Mais c'est ça qu'on discutait un peu hors d'onde. On va commencer à se développer un petit peu. Là.
On va essayer de vous faire ressentir les Technopreneurs 2.4.6, là, une nouvelle version non officielle.
379.
Mais c'est la version non officielle, c'est ça.
Exact, c'est ça. Est en bêta.
Exact.
Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zélé. Et là-dessus, nous, on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, on a d'autres actualités technologiques. Et moi, puis JS, on va vous parler de notre jeu préféré de tous les temps. Ben non, faut pas exagérer, mais un excellent jeu québécois, par exemple, Sea of Stars. Donc, on vous jase de ça après la pause. Restez là.
Vous écoutez la seule radio au Québec qui mise vraiment sur le hip-hop.
Dalle pour un travail de qualité. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
Oh yeah!
18 ans et plus. Sexuel. Non.
Juste pas pour les deux.
Mal à ta main.
96.9.
Vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 10 septembre 2023. Il est 13h37 et nous, ben, les Technopreneurs, on est en onde jusqu'à 15h pour vous divertir, vous jaser de technologie, de cinéma, de jeux vidéo et on va faire même un gros topo sur qu'est-ce qui s'est passé cet été aussi en termes de technologie. Et je veux rappeler à nos auditeurs aussi que si vous avez une question pour nous, gênez-vous pas, vous pouvez nous texter au 418-903-5969, 418-903-5969, ou si vous préférez ben, les réseaux sociaux, ben, allez sur notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et oui, parce qu'on est en direct, hein, les technopreneurs. À chaque dimanche, on se promène. Donc, on part de Québec, puis on s'en vient, ça arrive sud pour vous divertir. On a bien du fun. Puis là, c'est un début, c'est un retour.
Retour en force. On ben va parler d'un gros, gros jeu, comme tu as parlé tout à l'heure. Ça va être malade.
Ben oui, on va vous jaser de Sea of Stars, qui vraiment, c'est un excellent jeu. Mais avant tout ça, on s'en va en actualité technologique.
TikTok, vous connaissez ça, là, tu sais, c'est les deux personnages, là, les deux petits Suisses, là.
TikTok.
Ouais, c'était bon, ça. C'était vraiment bon.
Wow, c'était même pas prévu.
C'était ça?
Ça, c'était un beau moment de radio. Pas pantoute. Oh. Mais je vous parle de TikTok, évidemment, l'application qui est l'application de l'heure, là, malgré que on en parlait un peu la saison dernière, puis qu'il n'y a pas tant d'abonnés que ça, malgré que ça grandit tout le temps. Mais il n'y a pas autant d'abonnés que, mettons, que Meta, Facebook, évidemment.
Ouais, il y a quand même beaucoup de monde, par exemple.
Ça reste quand même que c'est un des médias sociaux qui est non seulement le plus visible présentement, mais qui est en pleine expansion. Et tellement que tout le monde commence à copier TikTok. Alors, TikTok a décidé un peu de commencer à copier ses rivaux.
Ben, voyons donc.
Et oui, en effet, c'est dans le fond deux articles, là, ce que j'ai rapporté sur le site Engadget et The Verge, qui sont deux plateformes très intéressantes, là, si jamais vous aimez vous renseigner.
Intéressantes, pas très, là. The Verge, c'est assez ordinaire aussi, là. Ben, peut-être Engadget, correct, là. Mais...
Ben, The Verge, il y a quand même des... Non, mais
c'est... Il y a pas mal de rumeurs. C'est un site de rumeurs. Pas mal, ouais.
The Verge, ce qui est intéressant, c'est plus, je vous dirais, à ce niveau-là, c'est plus les critiques sur des produits, des choses comme ça.
Ouais, peut-être un peu plus, ouais, je suis d'accord. Ouais.
Mais en effet, ils vivent beaucoup de rumeurs, mais cette fois-ci, c'est une rumeur qui est très fondée, mm-hmm. puisque c'est des offres d'emploi qui ont été placées, en fait, par on pourrait dire la maison mère de TikTok, là, qui, je me rappelle jamais du nom.
ByteDance ou je sais pas quoi.
ByteDance, exactement. Ouais. Ils sont en train, en fait, ils ont émis des offres d'emploi pour engager une équipe dite, dans le fond, sociale. C'est pour dire le TikTok social. Parce que ce qui se passe présentement, c'est que sur TikTok, il n'y a pas vraiment de sexy.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Qui ont de pour
chatter.
Pour chatter, exactement. Donc, tu sais, dans ce qui se passe, grosso modo, c'est qu'on voit une vidéo sur TikTok, et puis là, on va s'en aller sur Instagram, on va aller s'en aller sur Messenger, on va aller sur d'autres réseaux sociaux pour dire « Hey, check la vidéo que j'ai vue ». Donc, ça manque un peu de logique dans le contexte où est-ce que une application veut carrément que les gens restent plus longtemps sur leur application. C'est ça le but tout le temps. D'ailleurs, l'algorithme de TikTok est tellement bon que c'est ce qui fait que les gens restent plus longtemps sur la plateforme. Parce que aussitôt qu'on aime une vidéo, qu'on la regarde, peu importe, c'est toutes des vidéos du même genre qui sont rapidement ensuite, qui nous sont rapidement proposées. Et on en parlait aussi que elle est particulière, puisque aussitôt qu'on allume l'application, il y a une vidéo qui part en haut dès le départ. Là. C'est pas comme YouTube, est-ce qu'on doit la choisir, ou même Facebook, ou peu importe. Donc, on est rendu là au niveau de TikTok, donc on veut transformer un peu cette partie-là. Donc, les posts qui sont affichés, c'est vraiment des posts de programmeurs, autant en ce qu'on appelle en front-end, donc la partie visuelle, la partie de l'utilisateur, autant que la partie back-end, donc c'est la partie programmation et développement du logiciel lui-même. Donc, c'est ces offres-là qui ont été d'abord, qui ont été rapportées, ben c'est vraiment des offres d'emploi, là. Donc, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, malgré qu'on construit un peu la nouvelle alentour de ça. Mais c'est déjà quelque chose qui était dans les plans depuis longtemps chez TikTok. C'est juste qu'on n'a pas décidé de mettre beaucoup de temps là-dessus. Et évidemment, dans un contexte où est-ce qu'on va en parler un petit peu plus tard de Threads, qui est, dans le fond, la version Twitter de Meta, si on pourrait dire. Et tu sais que tout le monde essaie de prendre ce qui est bon de l'autre pour l'incorporer dans sa plateforme, avec plus ou moins de succès, comme on va pouvoir voir. Mais c'est un peu TikTok. Est-ce que cette partie-là qu'ils vont faire, est-ce que ça va leur donner le succès qui va les propulser vers la plateforme la plus utilisée?
Donc, mais c'est un peu étrange parce que, tu sais, comme... Tu sais, moi, j'étais un grand utilisateur de YouTube. Puis, tu sais, TikTok, moi, j'ai dit, je voulais pas y aller. Sur TikTok, j'étais là, je vais perdre trop de temps dans ma vie, j'en perds déjà assez sur mon cellulaire, en masse comme ça, fait que je fais comme, j'irai pas vers TikTok, fait que j'utilise YouTube Shorts, qui est intéressant, qui va bien. Mais tu sais, sur YouTube, quand t'écoutes une vidéo de façon générale, tu peux tout le temps commenter en dessous, tu vois les commentaires, mais quand t'es sur YouTube Shorts, t'en vois pas. Faut que tu y ailles vraiment sur une version navigateur pour voir les commentaires en dessous des vidéos. Ou sinon, il n'y en a pas. Fait que tu sais, tu vois même que YouTube n'utilise pas à 100% sa plateforme.
Yesser, en tout cas.
Mais non, mais c'est basé à la méthode TikTok, mais ça fonctionne pas à 100%.
C'est particulier ce que tu dis, parce que YouTube Shorts est en fait une copie de TikTok.
Mais on ne peut pas plus commenter. Mais je peux commenter, mais c'est une version navigateur. Mais quand je suis sur mon cellulaire, je peux pas réagir. Tu sais, je peux juste faire un like, dislike.
Exactement comme
c'est
TikTok.
C'est ça, exact. Ou faire un share, mais c'est tout, c'est juste ça. Puis pourtant, YouTube, si je m'envoie sur une version de navigateur, ben là, il y a un petit peu plus de possibilités d'ajouter un commentaire ou quoi que ce soit. Mais je fais comme, c'est dommage étrange que YouTube enlève comme, on dirait, des fonctionnalités. Comme
toutes ces compagnies font ça sur Facebook, que ce soit la version mobile.
On se copie beaucoup. Là.
Absolument. Mais c'est qu'ils sont pas capables de faire une version mobile avec les mêmes options que la version browser sur ordinateur. Ben, souvent, ils essaient d'en enlever pour éviter que les gens se trompent, mais ça frustre les gens, justement, qui sont un peu plus habitués, là, comme
ben,
nous.
Ça reste que...
C'est capable de faire un commentaire là, sans faire exprès.
Oui, ouais, ouais, c'est ça, exact.
Oui, mais ça reste que, dans le fond, au niveau de la... De tout ce qui est TikTok, c'est qu'ils mentionnent que leur but reste quand même d'être une compagnie d'entertainment. T'sais, le but est d'offrir justement du contenu et pas nécessairement, c'est pas la priorité d'avoir un partage de contenu, mais ben, du moins un partage de contenu, mais une discussion à propos des contenus. Mais l'important, c'est qu'ils veulent mettre toujours l'emphase sur le contenu lui-même. Un peu comme YouTube a fait dans une grande partie de on pourrait dire depuis qu'il est né, ce qui ont mis beaucoup d'accent sur le contenu, alors que maintenant, c'est plus le format qui est important et non pas nécessairement le contenu, parce que on sait que, tu sais, quelqu'un qui se part une chaîne YouTube, maintenant, c'est beaucoup plus difficile de se rendre à quelque chose de payant que c'était à l'époque. Parce que là, maintenant, il faut avoir des shorts, il faut avoir... donc, toutes ces choses-là s'additionnent.
Oui, c'est plus compliqué pour tomber en rémunération.
Exactement.
Mais en rapport à TikTok, c'est quand même beaucoup plus facile d'arriver en rémunération qu'à YouTube. C'est même pas comparé.
Non, en effet, TikTok n'est pas...
TikTok est pourri.
Et pas axé sur les utilisateurs, mais bel et bien pour que l'argent soit ramassé ou du moins vos données le soient. Mais
voilà.
Tout ça pour dire que TikTok, dans le fond, fait autant comme on pourrait dire comme ses compétiteurs. C'est-à-dire, ils prennent un peu de l'un et de l'autre et voir est-ce que ça va marcher. C'est l'avenir qui va nous le dire.
Ben oui, ben on vous tient au courant parce qu'on aime ça jaser de l'évolution de ces plateformes-là. Donc, ben merci beaucoup, Guillaume. Et en parlant d'applications, ben je sais pas si vous le savez, mais CJMD, on en a une application qui est disponible pour finalement iOS et Android. Ben c'est disponible sur le App Store ou sur le Play Store de Google. Vous pouvez écouter vos émissions en direct, les podcasts, accéder à la programmation. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Donc, et allez télécharger l'application, c'est nous encourager. Et vous pouvez, là, tu sais, mettre votre cellulaire là, l'application, vous allez pouvoir écouter la radio en temps réel. Et pour pouvoir profiter de cette belle programmation, c'est JMD qui est relancé. Donc, nous, on est un peu... Bon, on commence un peu sur le tard, mais en même temps, ben c'est dimanche.
On n'est pas sur le tard de ce que j'ai appris tantôt. Ça a commencé le 5 septembre.
Bon, mais voilà.
Fait que c'est un lundi. Nous autres, on était juste avant. Fait
c'est ça.
On est à l'heure.
On est là. On est là pour vous divertir. Voilà. Et là, en parlant de divertissement, ben on s'en va à ma chronique Jimbo Tech.
Rétro technologie jeux vidéo. C'est Jimbo. Jimbo qui? Jimbo Tech. Oh, yeah.
Ben oui. Jimbo Tech, jeux vidéo, on aime ça les jeux vidéo, mais je suis pas un très grand gamer l'été. J'aime autant profiter de l'événementiel, sortir. Fait que j'ai pas joué à énormément de jeux. Mais il y avait vraiment un jeu que j'attendais avec impatience, et c'est le jeu québécois Sea of Stars, qui est maintenant disponible, donc du développeur indépendant Sabotage Studio. Et moi et Jean-Samuel, ben on a eu un plaisir de jouer à ça, malgré que Jean-Samuel a eu son deuil aujourd'hui, parce que t'as terminé le jeu, de qu'est-ce que j'ai compris?
Mais oui. C'est maintenant la fin.
Mais oui.
Mais c'est pas tant la fin, mais le jeu est fini. Je l'ai complété. J'ai eu accès à la New Game Plus.
Il y a d'autres
choses à compléter avant d'avoir fini le jeu à 100%, 110%. Non, on a vraiment. J'ai eu encore mon spleen, mon deuil de jeu vidéo, comme tu l'expliquais. Le jeu est fini. C'est si triste.
Ben, c'est triste parce que tu as eu vraiment du plaisir. Écoute, on a même discuté en dehors des zones à quelques reprises. Vraiment, tu sais, pour toi, c'est un gros coup de cœur, ce jeu.
Un gros coup de cœur, je l'attendais. J'avais déjà un gros parti pris, mais souvent, quand j'ai un gros parti pris, je suis plus critique encore. Je sais que je vais aimer le jeu, mais je vais essayer d'y trouver du défaut, là. Tu sais, je vais moins le regarder avec mon œil d'averti. Puis. J'étais vraiment impressionné, sérieusement. Le pixel art à son meilleur.
Ouais.
Tu sais, son réputé Sabotage Studio pour le pixel art. Et là, ils ont vraiment remis une coche au-dessus. C'est.
Moi, j'en ai discuté beaucoup avec. J'en ai discuté beaucoup avec des amis parce qu'il n'y avait aucune idée c'était quoi ce jeu-là. Parce que j'en ai discuté une bonne partie de l'été, puis personne ne savait c'était quoi. Donc, c'est un jeu, c'est un RPG. Donc, tour par tour, vraiment très, très inspiré de Chrono Trigger qui était sorti au Super Nintendo. Puis, tu sais, je pense que quand on fait référence à des jeux, des RPG au Super Nintendo, on pense à Secret of Mana et Chrono Trigger.
Mais oui, et Legend of Gaia aussi, tu sais.
Exactement. C'est vraiment l'inspiration totale de vraiment de ce type-là. Peut-être un RPG, peut-être un petit peu plus linéaire, mais c'est vraiment c'est la structure, l'encadrement que tu as fait en sorte que tu veux jamais arrêter de jouer. Là. Et ça, tant qu'à moi, c'est le petit côté bonbon de jeu. Hein. Le fait que l'encadrement, c'est parfait, l'histoire. Et là, c'est un jeu 100% fait à Québec. Là. Donc, l'histoire aussi, parce que là, dans la démo que j'avais joué, il y avait une version québécoise du jeu.
Ben
parce
oui. que sacré-tu ou...
Ben, The Messenger, qui est leur premier jeu indépendant qui ont sorti aussi, était disponible en québécois aussi. Là.
Encore là, en mode nostalgique, parce que j'ai vraiment l'impression que cette compagnie-là va chercher la nostalgie des gamers en y allant avec quelque chose qui a toujours fonctionné.
On réinvente pas la roue, on la fait à la perfection. Moi, c'est la meilleure manière j'ai de décrire Sabotage Studio. Ça donne rien d'inventer des nouvelles mécaniques. Tu sais, pour eux autres, ils vont en créer. Ça va être plus subtil, mais vraiment, ce qui va aller chercher le nombre de joueurs qui sont capables d'aller chercher, les prix qu'ils vont chercher, c'est qui. Tu sais, le bois, il est travaillé, là. C'est de la
job de menuisier
d'antan, là. Tu sais, il y a des heures et des heures de fête là-dessus. L'équipe est petite, mais ils ont tellement d'équipes de collaborateurs. D'ailleurs, si vous finissez le jeu, regardez les crédits. Vous allez voir, c'est dans même une petite équipe, Sabotage. Et après ça, vous allez voir qui a aidé à faire quoi? Il y a plein de studios. Devolver est là-dedans. Il y a plein de noms que vous allez connaître qui sont justement là, derrière Sabotage pour avoir aidé de près ou de loin, pour, peut-être pour la traduction, peut-être pour la mise en marché, pour faire les contacts et compagnie. Puis ils vont encore rafler tout. Là. Juste les notes, on parle entre 8, 7.5 à 10 sur 10 pour la majorité des chroniqueurs. Donc,
Moi, j'ai vu beaucoup de. Ouais, c'est ça, du 9. Ouais. J'ai vu beaucoup de 9 sur 10 un peu partout.
Ben, c'est ça. Moi, je suis allé du pire au meilleur. Ouais, mais ouais, beaucoup de 9 et de 10, là. Puis, tu sais, même avant que le jeu soit sorti, il y avait un engouement pour The Messenger. Tu sais, en 2018, c'est sorti. Ça a tout raflé. Ils ont gagné plein de prix. Mm-hmm. Là, se sont fait vraiment mettre sur la map avec ce jeu-là, tu sais, qui était leur premier opus. Puis, ils se sont dit, on va mettre ça à 33 000$ en Kickstart. Il y a 25 000 personnes qui ont backé le projet et plus pour aller chercher à 1,6 million environ. C'est quand même dépassé son objectif sur un moyen temps, là, selon moi. Là. Ça, ça veut dire que tu as l'amour de la communauté. Puis ça, je pense, c'est l'avenir dans le jeu vidéo. On a parlé un petit peu chez toi, Jimmy. Les gros studios, les temps, je pense, sont faits. Oui, ils vont continuer à sortir des beaux jeux. Bethesda, Starfield, aimé du public, mitigé pour certains, mais... ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont juste ordonné la bonne vieille recette de macaroni de grand-maman. Remange-en, c'est bon, on sait que tu aimes ça. Là, ces studios-là, comme Sabotage, vont beaucoup plus loin. Ils sont capables de nous faire réaimer justement ces jeux-là qu'on a joués toute notre jeunesse.
Ben, c'est surtout, comme tu dis, un peu de notre jeunesse, mais il y a une nouvelle génération de gamers là, qui s'en vient. Puis ceux-là, souvent, ils ont joué aux jeux de leur père, de leur mère. Ah ouais. Et souvent, c'est des plus vieux jeux sur des consoles. Donc, vont vouloir retrouver ce genre de jeux-là. T'sais, des jeux de qualité, comme vous dites. Là, on parlait des codes tantôt. Sur Steam, il est 9 sur 10. GameSpot, 9 sur 10, IGN 8 sur 10. T'sais, on est pas mal les des trois plus grosses critiques là, qui valent la peine de consulter pour un jeu. Là. Donc, Colin, vous me donnez le goût de jouer. Là.
Ben écoute, en jeu, parce que c'est, comme tu disais, GS, c'est un jeu qui était socio-financé. Et puis, ça a été la première campagne canadienne à défoncer le million de dollars. Donc, exactement.
Ça, je savais pas.
Ben écoute, ça a été vraiment, ça a été ça, dans un article de Radio-Canada que j'ai vu ça. Fait que je suis là, oh, OK, intéressant. Ben chapeau vraiment à Sabotage. Moi aussi, j'ai du gros fun. Je suis rendu à peu près à 13-14 heures de jeu. Dis-moi rien.
Non, je spoil rien.
Mais en même temps, qu'est-ce qui est vraiment... t'sais... Et puis, la version québécoise n'est pas disponible, par exemple.
Début 2024, dans ce qu'on s'est fait dire. Okay. Mais c'est sûr que ça va se faire. Parce que dans la démo, ceux qui veulent essayer le démo, il y a la version québécoise qui est disponible pour la démo. Puis le jeu est gratuit. Ceux qui sont abonnés à Game Pass et PlayStation Plus Extra.
Exactement.
Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser. C'est dans votre abonnement. Sinon, ben, c'est un 46$ de mémoire sur toutes les plateformes. Nintendo et compagnie. Les jeux physiques vont sortir bientôt.
Version physique, fin de l'année? Début de l'année? 2024.
C'est dans l'année 2024. Ils ne se sont pas donné de date encore, mais ils ont sorti Messenger avec Limited Run. Ça risque encore d'être la même chose. Donc, un beau produit fini pour les collectionneurs.
Quand même. Mais malgré que la version québécoise n'est pas présente, le jeu a quand même des drôles de noms de personnages. Et là, et ça, je pense, c'est vraiment un des créateurs, vraiment, donc, je pense, c'est un article, c'est Thierry Boulanger, donc, un des cofondateurs et directeurs créatifs et PDG de Sabotage, qui se donne un malin plaisir à donner des noms de personnages qu'on doit pratiquement prononcer, donc, regarde, je vais vous en donner un, là, c'est Malcommode.
M-A-L-K-O-M-U-D.
Exactement. Fait que, donc, les anglophones, ben, ils vont dire Malcommode. Après ça, tu en as un autre, c'est Cliché.
Captain Cliché.
Exactement. Fait que, ils s'organisent pour que les anglophones mentionnent les noms en québécois. Mais tu lis le nom, hein? Cliché. OK. Malcommode. OK. Fait que là. Et ça vaut vraiment la peine de le jouer même en français, là, parce qu'actuellement, moi, je le joue en version française. Puis tu vois que c'est pas un jeu français de France, là. Tu vois que c'est quand même écrit par une plume. Un auteur québécois, là, on le voit très bien, on le ressent très bien aussi dans l'histoire. Et ils ont vraiment leur style, Sabotage. Hein. Juste pour une deuxième création comme ça, tu le vois, tu sais, il y a une inspiration de Messenger qui est là, le style.
Vous allez avoir des clins d'œil de Messenger dans le jeu. Là,
et le jeu veut juste t'impressionner tout le temps, puis vraiment de dire, ah, OK, on s'en va là, pour de vrai. Hein, t'attendais pas à ça. Fait que le jeu est très, très impressionnant. pour
très beau détail, tu sais, la musique que vous avez entendue tantôt en background, c'est le thème intro du menu principal de Sea of Stars.
Ouais.
Mettons, dans tous les RPG, vous pouvez vous faire de la nourriture ou en acheter pour justement faire augmenter vos points de vie ou vos points de magie. Et il y a une petite animation quand tu fais tes recettes, je trouve, qui est super bien réalisée, qui rajoute un petit plus. C'est pas redondant, se faire des lunchs. Puis tu sais, il y a des... Je vous brûlerai pas de punch, là, mais quand vous jouez au jeu, portez attention à ce qui sort, là, justement, dans les recettes. On voit que c'est fait par des gars du Québec. Donc, je vous laisse vous imaginer qu'est-ce que vous pouvez faire comme petit lunch, là. C'est super.
Bref, c'est un jeu québécois qui est super bon puis qui vaut la peine d'être joué sur presque toutes les plateformes.
Toutes les plateformes, toutes exactement. Puis en plus, c'est gratuit pour PS Plus Extra ou Xbox Game Pass. Donc, il fait partie de l'abonnement. Très intéressant. Moi, c'était un jeu que je voulais acheter. Puis finalement, ben écoute, merci l'abonnement de PlayStation Plus, mais qui augmente de prix pour faire... parce que... l'augmentation de prix. Oui, parce que du côté de Sony, je pense qu'on veut vraiment ajouter le prix en fonction que qu'est-ce que offre la compétition. Donc, il faut comprendre que le Xbox Game Pass, ça reste un abonnement que PlayStation vraiment tente très bien de rivaliser. Puis je pense qu'ils le font très bien parce que cette année, je pense que c'est le meilleur line-up que PlayStation Plus a jamais eu là, dans tout dans tous les sphères de leur service, autant en essentiel qu'en extra qu'en premium. Et puis, mais on parle d'une belle augmentation, là, par exemple. Là.
35% d'augmentation, c'est énorme dans le contexte d'aujourd'hui. Là. L'abonnement de 12 mois...
Ben, c'est pas la première fois qu'il augmente de 35% comme ça parce que le PlayStation Plus essentiel était $50 initialement. Et là, il est tombé à 70$.
Oui, mais en deux augmentations.
Et là, il tombe à 94 et 99.
Et hey, puis le PlayStation Plus Extra passe de 114,99 à 154,99.
Ben ça, c'est l'Extra. Ouais, c'est le PlayStation
l'extra
Plus
et
Extra.
Et le PlayStation Premium, oui. Attachez votre sucre avec la broche, de 139,99 à 189.
190$.
189,99. Hey,
voilà.
Wow. Hey, 200$ là pour... J'en conviens qu'il y a beaucoup de stock, mais 200$, c'est de l'argent. Là.
Ça commence à être de l'argent, effectivement. C'est
mais
sûr
c'est
que...
pas si pire. Ben... Quelque juste Sea of Stars, c'est 46$ plus taxes que tu viens de sauver.
C'est sûr.
Ben, c'est quand même une bonne partie de ton abonnement qui vient de se rentabiliser.
Moi, ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que tu sais, il y avait un abonnement, ils l'ont séparé en trois. Puis là, l'abonnement PlayStation Essential, je trouve qu'il est un petit peu plus délaissé au profit des autres.
Au profit de l'extra, oui, effectivement. Ouais. Parce que le premium, il est là pour aussi vous permettre de pouvoir partir n'importe quel jeu en streaming maintenant, d'avoir des jeux classiques aussi, d'avoir aussi des possibilités d'essayer des jeux avant d'acheter. Fait que la majorité des jeux sont tous disponibles pour 1 à 2 heures de jeu, sans que ça soit la démo. Tu télécharges le jeu complet puis tu peux l'essayer. Et puis, tu peux te donner une idée. Donc, il y a quand même une bonne sélection de jeux qui sont disponibles là-dessus. Et on fait revivre des jeux rétro, là, comme récemment. Bon, on a donné le Twisted Metal 1 et 2. On refait vivre des jeux de PSP.
Ouais, mais ça, c'est parce que la série est sortie sur Paramount Plus.
Ben, écoute, ça faisait un lien avec ça. Puis, ils se sont organisés que ça soit là. Fait que, tu sais, ils ont bien fait ça. Parce que même moi, j'ai rejoué à Twisted Metal 2 à cause de ça. Là.
Ben
ça,
oui, c'est un qui classique du PlayStation.
Hein?
Ben oui. C'est vrai que c'est un classique du PlayStation.
Ben oui, c'est un classique du PlayStation. Et pour les avoir, ben, faut être obligatoirement abonné au service. Mais on peut acheter les jeux aussi séparément. Mais qui est quand même un bon tarif, là, pour un vieux jeu comme ça. C'est une $15 à peu près. Grosse augmentation. Écoutez, on veut vous donner des conseils, là, aux technopreneurs. Personnellement, j'ai jamais acheté mon abonnement PlayStation Plus, à prix régulier. Pourquoi? Du côté PlayStation, souvent, on fait au moins 3 à 4 gros rabais annuels. C'est-à-dire qu'on descend à peu près le prix d'une 30% à peu près.
Ben, c'est ça. C'est que là, ils vont nous remettre le prix régulier comme c'était, mais ça va être un rabais.
Exactement. Ça va être un peu ça. Et aussi, il faut comprendre que vous pouvez, quand vous le voyez en spécial, l'abonnement, exemple, du PlayStation Plus, vous pouvez le renouveler le nombre de fois que vous voulez au tarif qui vous le propose. Fait que si vous voulez, exemple, dire, ben, je vais l'acheter 2 fois à $110, vu qu'il sera en spécial, juste pour vous donner un exemple, ben, vous pouvez le renouveler 2 fois, puis ils vont juste vous dire, ben, ton abonnement va s'éteindre telle date, telle heure, en fonction de l'abonnement ou le nombre de fois que vous avez renouvelé votre entente. C'est très facile aussi de passer de PlayStation Plus Essentiel à PlayStation Plus Extra. Donc, quand vous allez dans votre console, c'est très, très facile. On vous met un prix précis sur vraiment le coût que vous allez amortir pour vous abonner.
Là-dessus, ça, c'est bien. C'est que, tu sais, il n'y a pas de cachette, là. Tu sais, il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas d'affaires, oui, là, qu'on ne sait pas c'est quoi.
Mais c'est l'abonnement annuel que je trouve intéressant. Tu sais, qu'est-ce qui n'existe pas chez Microsoft? Parce qu'il faut comprendre que le Xbox Game Pass, c'est un abonnement mensuel seulement.
Mm-hmm.
Donc, si on décide d'augmenter le prix, bon, il va comme ça. Et l'abonnement Xbox Game Pass complet, ben, ça frise $18 à peu près par mois canadien. Fait que c'est sûr, si on compare peut-être à l'abonnement du PS Plus qui est rendu à 190$, mais c'est pas la même offre, hein, parce que tu sais, on s'entend là, chez PlayStation, t'as à peu près 500 jeux qui sont disponibles, là, à peu près si tu fais le tour de la librairie, 500 à 600 jeux de disponibles pour l'abonnement, comparativement à Xbox Game Pass qui est à peu près, je vous dirais, une centaine de jeux. Pas plus. C'est à peu près ça.
Environ.
Mais centaines de jeux. Mais là, on arrive avec des gros AAA, tu sais, comme Starfield qui est sorti. PlayStation ne donne pas ces jeux comme ça. Tu sais, Spider-Man, le prochain Spider-Man 2 qui s'en vient, c'est sûr jamais que PlayStation vont donner ça. Est-ce qu'ils vont le donner dans un an et demi via leur abonnement? Oui.
Ben mais... oui, parce qu'on a eu le premier.
Mais oui, exactement. Mais tu sais, ils l'ont donné, tu sais, après peut-être 2 ans de sortie. Puis tu sais, ben... c'est une version remasterisée aussi, parce que c'était vraiment, c'était un jeu de PS4 initialement. Pour les propriétaires de PS5, là, je parle. Mais initialement, tu sais, tu comprends que moi, je pense que Starfield, malheureusement, ça va être un échec commercial là, pour Microsoft à cause des critiques et aussi et le fait qu'ils vendront pratiquement pas le jeu en format disque ou en version numérique à 90$. Moi, je pense qu'il faut falloir qu'ils fassent quelque chose parce que l'investissement que ce jeu-là coûtait, tu sais, on parle d'un investissement sûrement de 250 millions à 300 millions de dollars pour ce jeu-là.
Coup de film, là, maintenant. Hein?
Puis qui devait même pas être un jeu exclusif. On s'entend que Microsoft, ça a tellement mal été avec le Xbox Studios, le Microsoft Studio, dans les dernières années, qui était mal pris. Et puis, ils ont vraiment pas eu le choix de faire un jeu par Bethesda, une de leurs divisions, exclusif. C'était même pas censé être là. C'était même un jeu qui était en création pour le PS5, Starfield. Puis là, malheureusement, ben on le perd pour avoir ce jeu-là exclusif. Puis là, c'est vraiment, ça risque d'être un échec, même du côté commercial pour Microsoft.
Il faut s'y être sur Xbox versus sur PC. Moi, c'est ce qui ressort beaucoup autour de moi.
C'est un jeu de Bethesda, hein?
Ben non, mais sur PC, c'est pas si mal.
Mais Fallout, c'est vraiment sa communauté de Fallout. Mode, c'est sur PC, c'est un jeu de mode, c'est ça. Mm. S'il y a encore autant de gens qui jouent à Fallout, c'est juste qu'ils jouent à des jeux ben, qu'ils n'ont premièrement pas acheté, puis que deuxièmement, ben, c'est des jeux qui sont modés au complet. Et quand on dit mode, là, ben, à vrai dire, c'est pour dire qu'on change la mouture du jeu, on ajoute des options dans le jeu qui n'étaient pas présentes initialement. Donc, on va un peu à l'encontre vraiment des créateurs officiels, là.
Ben, un peu comme des jeux de téléphone se font, ou est-ce que c'est des jeux qui finissent pas?
Ben, c'est là, c'est juste que c'est la communauté qui modifie ton jeu, puis le créateur, il est d'accord parce que lui, il n'a pas besoin de se forcer, puis c'est la communauté qui décide où est-ce que le jeu s'en va. C'est pour ça que les jeux comme Fallout Skyrim sont encore en vie, là, tu sais.
Ben, oui, mais c'est sûr qu'ils ont ressorti plusieurs fois aussi.
Exact.
Mais ouais.
Parlant de grosses sorties, Baldur's Gate 3?
Ben, Baldur's Gate 3, oui, effectivement, que je savais même pas aussi, qui est en partie un jeu québécois aussi, hein, Baldur's Gate 3. Ben oui, parce que le studio Larian
fait ce jeu-là. C'est la porte de Baldur.
Oui, et voilà.
Non, c'est la porte Saint-Jean, mais ça n'a pas passé.
Ben écoute, il y a même de la poutine là, dans Baldur's Gate 3. Là.
Oh!
Ouais, exactement, qui est apparemment un repas équilibré et...
C'est équilibré, du fromage, des patates puis de la sauce. Ça tout fait partie des éléments nutritifs essentiels.
Mais le studio Larian, c'est ça. Là, il compte une équipe à Québec. Et puis, écoute, c'est un succès sur toute la ligne. Le jeu le mieux critiqué de tous les temps pour PC, pour ordinateur. Donc, sur Metacritic, là, il atteignait la note de 97, qui est énorme. Et le jeu, ben, il est disponible actuellement en exclusivité sur le PS5. Et là, maintenant, il est disponible. Là, il est sorti, là, je pense que c'était le 6 septembre. Que ça tombait disponible. Un jeu à 90$ quand même, là, c'est pas rien. Mais
il est sorti sur PC, puis après sur PlayStation 5.
Oui, exactement. Ben, à vrai dire, ça fait très longtemps qu'il est disponible sur PC. Hein. En bêta, là, ça va faire à peu près 2 ans et demi qu'il est sorti le jeu, qui est disponible. Mais là, la dernière update qu'on fait en début août, là, c'était vraiment la vraie version complète. Donc, il y a un de mes amis, il fait comme, ouais, c'était toute une patch. Là. C'était une patch de 97 gigaoctets. Fait que. C'est ça. Fait que, ouais.
Tu parlais de rating. IGN, 10 sur 10, Steam, 10 sur 10.
Voilà, oui, c'est ça. Puis c'est quand même assez impressionnant même de voir un jeu atterrir sur une console de jeu. Parce que des jeux comme ça, habituellement, ça restait sur l'ordinateur. Il n'y avait pas assez de capacité pour une console de jeu de rouler ça ou de l'adapter ou de bien l'adapter. Mais là, ça écoute, moi, je vois les critiques de PS5 puis il y a des gens même là qui lâchent la version PC pour aller vers la version PS5.
Ben, parce que quand ce transfert-là se fait bien, c'est que c'est au niveau des contrôles. C'est toujours au niveau de la manette versus un clavier-souris. C'est que souvent, on dit que ceux-là qui ont clavier-souris sont souvent capables, comme par exemple dans un contexte de FPS, d'être plus rapide que quelqu'un qui a une manette.
Ouais.
Donc, si ça s'adapte bien, ben là, le clavier-souris est plus nécessaire. Puis là, ça devient pas mal plus le fun de jouer avec une manette. Là.
Ben, c'est... Ouais, mais c'est ça.
C'est plus
mais,
pour tout le
mais
monde.
Mais c'est lent un peu aussi comme jeu. Fait que, tu sais, des fois, quand t'es bien installé dans ton couch, partir dans ta belle aventure de Donjon Dragon, on s'entend? Baldur's Gate, ouais. c'est vraiment, on est dans l'univers de Donjons Dragons.
Dans le très pur,
c'est,
là.
Dans le très pur, là, exactement, là.
C'est particulier que, tu sais, dans le jeu vidéo, ils réussissent à faire un succès, puis au cinéma, c'est encore pété à gueule, là, voyons, en mars dernier, avec Dungeons and Dragons Among Thieves, qui a été un autre échec. Parmi les trois, je pense que ça fait trois, là, films qui essaient, puis à chaque fois, ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Tu sais, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils réussissent dans le jeu vidéo, puis c'est vraiment le même genre d'univers. Le Baldur's Gate, ah oui, a son micro-univers un peu à lui, mais tu sais, l'univers de Donjons et Dragons est tellement riche, tellement intéressant, je peux pas croire, tu sais, c'est pété à la gueule comme
le
ça.
Le seul bon film, ouais. C'est Farad-dûr. Qui est sorti de Donjons et Dragons.
Mais c'est pas purement Donjons et Dragons, on s'entend pour dire, mais c'est celui-là qui est le plus intéressant. Non, mais c'est parce que dans Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, c'était vraiment...
L'univers.
C'était
là,
dans ça. L'univers, il n'y avait pas de gens qui jouaient à Donjons et Dragons. T'sais. Tandis que Farad-dûr, mais ça, c'est un classique québécois. C'est d'ailleurs, je pense, la vidéo YouTube québécoise la plus écoutée ou presque de tous les temps.
Tom et ses chums,
la bataille de Farad-dûr, ça faisait partie de Mars. Tout ça pour dire que pourquoi est-ce que on réussit à faire des succès comme Baldur's Gate, qui, je pense, faut jouer à ce jeu-là, moi.
Ben, c'est fait pour toi et ça-là. Là.
T'avais joué au premier opus, le premier?
À l'époque,
le deuxième,
oui, moi j'avais joué sur la Xbox.
OK.
Ouais, puis il s'en vient aussi sur la Xbox, parce que initialement, c'est même pas censé être une exclusivité PlayStation 5 non plus. Celle-là, un peu par défaut. Mais il faut comprendre que les développeurs actuellement, ils ont quand même des restrictions à faire du développement sur la Xbox. Et c'est un peu pourquoi qu'il y a peut-être moins de jeux third parties là, qui sortent sur la console. Parce qu'il faut vraiment qu'ils adaptent leur jeu pour la Xbox Series S, qui est à peu près une PS4 Pro. Fait que, et là, je pense que là, c'est vraiment...
Ils n'ont pas utilisé toutes les lettres d'alphabet là, pour résoudre le concert.
Bon, on le verra bien la prochaine, mais... mais là, juste pour vous donner une idée à quel point que le jeu Baldur's Gate 3 était populaire, attention, je vous donne ça. Donc, on parle qu'il y a eu à peu près 10 millions d'heures dans le jeu qui étaient faites. À peu près un équivalent de 1225 ans. Et ça, c'est le premier week-end de sa sortie. Le jeu, il est populaire, là. Et puis, c'est un jeu populaire, puis en plus, il est super bien critiqué. Donc, c'est une belle année de jeux vidéo, hein, parce que, tu sais, il faut se rappeler aussi que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom aussi, qui est sorti cette année.
Gros jeu,
il y a un nouveau
là.
Pikmin aussi qui est sorti. Il y a Spider-Man qui s'en vient dans pas long. Spider-Man 2, que j'ai vraiment hâte de jouer. Il y a de la malade. Mais on argentera lors d'une autre chronique.
Avez-vous vu la nouvelle PlayStation 5 Spider-Man?
Oui,
avec la manette, là. Ouais. Ah, c'est beau, hein.
Prenez notre argent.
Ouais. On va prendre notre malheur patience. Voilà pour ça.
C'est si quand vous m'achetez une PS5, là, les boys?
Ouais, on pourra faire une cagnotte avec les auditeurs.
On va faire une campagne de sociofinancement.
Ouais, avec une TV 4K aussi, parce que je fais dur.
OK, ouais, ben là, tu veux-tu d'autres choses aussi, ta cassette?
Oui, je voudrais je vais
aller. Rendu là, ça prend une commandite de Tanguy.
Non, c'était pas de Tanguy la prochaine commandite, je te garantis.
Bon. Là-dessus, ben, on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, ben, écoutez, on sera pas en mode entrepreneurial cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, on revient avec des entrepreneurs. Les technopreneurs, ça le dit, hein.
Mais on va entreprendre quand même une chronique qui parle de tous les sujets technologique de l'été.
Ben oui, on va jaser, exactement. Donc, on va jaser de Twitter et on va jaser aussi de Thread, donc la plateforme de Meta qui a pas levé ben. On va jaser de ça. Donc, restez là, parce que vous écoutez les technopreneurs.
La passion. CJMD 96.9, les seuls à vous parler en journée, les week-ends.
Talk rock et hip-hop.
Sur benenov.com.
Jusqu'à 17h aujourd'hui, c'est votre dernière journée pour profiter du grand déstockage annuel de l'usine de fabrication Trévis. Ça se passe au 909 Pierre-Bertrand. Salut Stéphane Richard.
Salut Mélanie Gagné. Avec toujours ce 15 millions d'inventaires à liquider et l'avantage en plus des rabais, c'est qu'il n'y a rien à payer, pas d'intérêt non plus, jusqu'en 2024.
Et c'est le meilleur moment de l'année pour acheter votre piscine, qu'elle soit hors terre creusée, semi-creusée d'ailleurs. Semi-creusée, des rabais jusqu'à 5 000 $. Mais sur la piscine creusée, un exemple, la Trévis Fusion, le rabais jusqu'à 10 000 $.
J'ai relu deux fois, c'est bel et bien 10 000 $. On ajoute à ça un chauffe-eau gratuitement et la piscine va être installée cet automne. Ça fait la différence, ça.
Et je le répète, toujours rien à payer avant 2024. C'est la même chose sur la piscine hors terre. Par exemple, la Trévivol 18 pieds, tout équipé, le plus bas prix de l'année, 3 699 $. Et le chauffe-eau est gratuit. À lui seul, il vaut près de 2 000.
C'est vraiment votre dernière chance jusqu'à 17h aujourd'hui au 909 Pierre-Bertrand, la grande vente de déstockage de l'usine de fabrication Trévis.
C'est JMD 96.9 Lévis.
Hey! John Grizzly vous dit que Duffman vous dit d'écouter les podcasts au 969fm.ca. Yeah! Duffman.
La seule station hip-hop au Québec.
Écoute ça.
Wait a minute.
Vous écoutez CJMD 96.9.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.